Nicolas Boileau, L'art poétique, chant premier. C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. S'il ne se sent point du ciel l'affluence secrète, si son art s'en naissant ne l'a formé poète, dans son génie étroit il est toujours captif. Pour lui, Phébus est sourd et Pégase est rétif. Ô vous donc qui, brûlant d'une ardeur périlleuse, courez du bel esprit la carrière épineuse, n'allez pas sur des vers sans fruits vous consumer, ni prendre pour génie un amour de rimer. Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces, et consultez longtemps votre esprit et vos forces. La nature, fertile en esprits excellents, sait entre les auteurs partager les talents. L'un peut tracer en vers une amoureuse flamme, l'autre d'un trait plaisant aiguiser l'épigramme. Malherbe d'un héros peut vanter les exploits, Racan chanter Phyllis, les bergers et les bois. Mais souvent un esprit qui se flatte et qui s'aime méconnaît son génie et s'ignore soi-même. Ainsi, tel autrefois qu'on vit avec Faret, charbonné de ses vers les murs d'un cabaret, s'en va mal à propos, une voix insolente, chanter du peuple hébreu la fuite triomphante et poursuivant Moïse au travers des déserts, court avec Pharaon se noyer dans les mers. Quelque sujet qu'on traite, ou plaisant ou sublime, que toujours le bon sens s'accorde avec la rime. L'un l'autre vainement, ils semblent se haïr. La rime est une esclave et ne doit qu'obéir. Lorsqu'elle a bien cherché d'abord en ses vertus, l'esprit à la trouver aisément s'habitue. Au joug de la raison, sans peine elle fléchit, et loin de la gêner, la serre et l'enrichit. Mais lorsqu'on la néglige, elle devient rebelle, et pour la rattraper, les sens courent après elle. Aimez donc la raison, que toujours vos écrits empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix. La plupart, emportés d'une fougue insensée, toujours loin du droit sens vont chercher leurs pensées. Ils croiraient s'abaisser dans leurs vers monstrueux s'ils pensaient qu'un autre a pu penser comme eux. Évitons ces excès. Laissons à l'Italie de tous ses faux brillants l'éclatante folie. Tout doit tendre au bon sens, mais pour y parvenir, le chemin est glissant et pénible à tenir. Pour peu qu'on s'en écarte, aussitôt on se noie. La raison, pour marcher, n'a souvent qu'une voie. Un auteur, quelquefois, trop plein de son objet, jamais sans l'épuiser n'abandonne un sujet. S'il rencontre un palais, il m'en dépeint la face. Il me promène après de terrasse en terrasse. Ici s'offre un perron, là règne un corridor. Là, ce balcon s'enferme en un balustre d'or. Il compte des plafonds, les ronds et les ovales. Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales. Oh, je saute 20 feuillets pour en trouver la fin, et je me sauve à peine au travers du jardin. Fuyez de ces auteurs l'abondance stérile, et ne vous chargez point d'un détail inutile. Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant. L'esprit rassasié le rejette à l'instant. Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un pire. Un vers était trop faible et vous le rendez dur. J'évite d'être long et je deviens obscur. L'un n'est point trop fardé, mais s'amuse à trop nu. L'autre a peur de ramper, il se perd dans la nue. Voulez-vous du public mériter les amours? Sans cesse, en écrivant, variez vos discours. Un style trop égal et toujours uniforme, en vain brille à nos yeux, il faut qu'il nous endorme. On lit peu ces auteurs nés pour nous ennuyer, qui toujours sur un ton semblent psalmodier. Heureux qui, dans ses vers, cède une voix légère, passer du grave au doux, du plaisant au sévère. Son livre, aimé du ciel et chéri des lecteurs, est souvent chez Barbin, entouré d'acheteurs. Quoi que vous écriviez, évitez la bassesse. Le style le moins noble a pourtant sa noblesse. Au mépris du bon sens, le burlesque affronté trompa les yeux d'abord, plus par sa nouveauté. On ne vit plus en vers que pointe triviale. Le Parnasse parla le langage des halles. La licence arrivée alors n'eut plus de frein. Apollon travesti devint un tabarin. Cette contagio infecta les provinces. Du clerc et du bourgeois passa jusqu'au prince. Le plus mauvais plaisant eut ses approbateurs. Et jusqu'à Dassoucy, tout trouva des lecteurs. Mais de ce style enfin la cour désabusée dédaigna de sévère l'extravagance aisée, distingua le naïf du plat et du bouffon, et laissa la province admirer le typhon. Que ce style jamais ne souille votre ouvrage. Imitons de Marot l'élégant badinage, et laissons le burlesque au plaisant du Pont-Neuf. Mais n'allez point aussi sur les pas de Brébeuf, même en une farsale entassée sur les rives de morts et de mourants sans montagne plaintive. Prenez mieux votre ton, soyez simple avec art, sublime sans orgueil, agréable sans fard. N'offrez rien au lecteur que ce qui peut lui plaire. Ayez pour la cadence une oreille sévère. Que toujours dans vos vers le sens coupant les mots suspendent les mystiches, en marque le repos. Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée ne soit d'une voyelle en son chemin heurtée. Il est un heureux choix de mots harmonieux. Fuyez des mauvais sons le concours odieux. Le vers le mieux rempli, la plus noble pensée, ne peut plaire à l'esprit quand l'oreille est blessée. Durant les premiers ans du Parnasse François, le caprice tout seul faisait toutes les lois. La rime, au bout des mots, assemblée sans mesure, tenait lieu d'ornement, de nombre et de césure. Villon sut le premier, dans ses siècles grossiers, débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers. Marot, bientôt après, fit fleurir les ballades, tourna des triolets, rima des mascarades, à des reflets réglés, asservit les rondeaux, et montra pour rimer des chemins tout nouveaux. Ronsard, qui le suivit, par une autre méthode, réglant tout, brouilla tout, fit un art à sa mode, et toutefois longtemps eut un heureux destin. Mais sa muse en français parlant grec et latin, vit dans l'âge suivant, par un retour grotesque, tomber de ses grands mots le faste pédantesque. Ce poète orgueilleux, trébuché de si haut, rendit plus retenu des portes et berteaux. Enfin Malherbe vint, et le premier en France fit sentir dans les vers une juste cadence. D'un mot mis en sa place, enseigna le pouvoir, et réduisit la muse aux règles du devoir. Par ce sage écrivain, la langue réparée n'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée. Les stances avec grâce apprirent à tomber, et le vers sur le vers n'osa plus enjamber. Tout reconnut ses lois, et se guide fidèle aux auteurs de ce temps, sert encore de modèle. Marchez donc sur ses pas, aimez sa pureté, et de son tour heureux imitez la clarté. Si le sens de vos vers tarde à se faire entendre, ton esprit aussitôt commence à se détendre, et de vos vains discours prompt à se détacher, ne suis point un auteur qu'il faut toujours chercher. Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais, toujours embarrassés. Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que votre idée est plus ou moins obscure, L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Surtout quand vos écrits, la langue révérée, dans vos plus grands excès vous soient toujours sacrés. En vain vous me frappez d'un son mélodieux, si le terme est impropre ou le tour vicieux. Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme, ni d'un verre empoulé l'orgueilleux solécisme. Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse, et ne vous piquez point d'une folle vitesse. Un style si rapide et qui court en rimant marque moins trop d'esprit que peu de jugement. J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène, dans un pré plein de fleurs, lentement se promène, qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux, roule plein de gravier sur un terrain fangeux. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. C'est peu quand un ouvrage où les fautes fourmillent, des traits d'esprit se mêlent de temps en temps pétillent. Il faut que chaque chose y soit mise en son lieu, que le début, la fin répondent au milieu, que d'un art délicat les pièces assorties n'y forment qu'un seul tout de diverses parties, que jamais du sujet le discours s'écartant n'aille chercher trop loin quelques mots éclatants. Craignez-vous pour vos vers la censure publique? Soyez-vous à vous-même un sévère critique. L'ignorance toujours est prête à s'admirer. Faites-vous des amis pour à vous censurer. Qu'ils soient de vos écrits les confidences sincères et de tous vos défauts les et les adversaires. Dépouillez devant eux l'arrogance d'auteur, mais sachez de l'ami discerner le flatteur. Tel vous semble applaudir, qui vous raille et vous joue. Aimez qu'on vous conseille, et non pas qu'on vous loue. Un flatteur aussitôt cherche à se récrier, chaque vers qu'il entend le fait extasier. Tout est charmant, divin, aucun mot ne le blesse. Il trépigne de joie, il pleure de tendresse, il vous comble partout d'éloges fastueux. La vérité n'a point cet air impétueux. Un sage ami, toujours rigoureux, inflexible, sur vos fautes jamais ne vous laisse paisible. Il ne pardonne point les endroits négligés, il renvoie en leur lieu les vers mal arrangés, il réprime des mots, l'ambitieuse emphase. Ici le sens le choque, et plus loin c'est la phrase. Votre construction semble un peu s'obscurcir. Ce terme est équivoque, il le faut éclaircir. C'est ainsi que vous parle un ami véritable. Mais souvent sur ces vers un auteur intraitable à les protéger tous se croit intéressé, et d'abord prend en main le droit de l'offenser. De ce vers, direz-vous, l'expression est basse. « Ah, monsieur, bon, ce vers, je vous demande grâce, » répondra-t-il d'abord. « Oh, ce mot me semble froid, je le retrancherai. Mais c'est le plus bel endroit. Ce tour ne me plaît pas, mais tout le monde l'admire. » Ainsi, toujours constant à ne se pointer dire qu'un mot dans son ouvrage est paru vous blesser, c'est un titre chez lui pour ne point l'offenser. Cependant, à l'entendre, il chérit la critique. Vous avez sur ces vers un pouvoir despotique. Mais tout ce beau discours dont il vient vous flatter n'est rien qu'un piège adroit pour vous les réciter. Aussitôt il vous quitte et, content de sa muse, s'en va chercher ailleurs quelque fait qu'il abuse. Car souvent il en trouve. Ainsi qu'en sauts auteurs, notre siècle est fertile, sots admirateurs. Et sans ce que fournit la ville et la province, Il en est chez le duc, il en est chez le prince. L'ouvrage le plus plat chez les courtisans de tout temps rencontrer de zélés partisans. Et pour finir enfin, par un trait de satire, un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire.